Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Au bord de cet été qui commence et qui commence très chaud, en pleine canicule déjà, et bien je vous le dis, plongez avec nous dans le grand bain. Plongez avec nous, les spectateurs, les auditeurs présents aux conférences du Forum du Livre Péplum au Musée de la Romanité dimanche 21 juin dernier, c'était il n'y a pas si longtemps. Plongez avec nous et plongez avec Jean-Noël Robert qui nous a justement conduits dans ce cadre de l'Otium du Peuple, tel était le thème, je vous le rappelle, du Forum du Livre Péplum. Il nous conduit au terme « Palais du pauvre », c'est l'expression très belle qu'il avait choisie pour le titre de cette conférence. Alors vous allez écouter cet échange que nous avons eu avec lui. Je rappelle que c'est un historien, que c'est un auteur prolixe des belles lettres et qu'il a beaucoup parlé effectivement des loisirs à Rome. Alors dans ce temps de l'otium, dans ce temps où on entretient donc son corps, son esprit, son âme, eh bien, cherchons d'abord le tempo. En effet, quel est le temps alloué au terme dans l'agenda d'un Romain ?
Ils aimaient, j'allais dire, les balises, comme disent les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire les occupations du matin, l'après-midi, on ne mélange pas, l'emploi du temps est bien structuré. Et ça commence effectivement par le négotium, on est au forum, on fait de la politique, on rencontre des gens, voilà. Surtout sous la République, évidemment, sous l'Empire, la parole est un petit peu plus confisquée. Et ensuite, après le coup de trompette, je ne sais pas si vous avez entendu les trompettes, à midi, n'est-ce pas, sur le Capitole, eh bien, elle vous indique que les activités officielles s'arrêtent et qu'on commence les activités de plaisir, de loisirs, d'occupations diverses, suivant les fortunes et suivant, évidemment, les capacités de chacun. Néanmoins, les termes ont ceci de particulier, et de commun avec le forum d'ailleurs, d'accueillir tout le monde. Et Rome se rencontre. Bon, évidemment, on ne va pas pouvoir s'adresser aux plus riches facilement, mais enfin, on se rencontre. On s'est croisé le matin au forum, on se croise au terme l'après-midi, les termes qui n'existent véritablement que sous l'Empire, et donc pas sous la République. Sous l'Empire, les termes vont se développer et les termes sont une libéralité, c'est-à-dire que c'est un cadeau, en quelque sorte, que fait l'empereur aux citoyens de Rome et qui viennent, et les esclaves aussi d'ailleurs, qui viennent là au terme pour se détendre en moyenne 2 heures par jour, tous les jours. Donc c'est une activité qui est intéressante parce que justement elle est profane. Jusqu'à présent, l'otium dont on vous a parlé, que ce soit les jeux, les activités sportives, que ce soit les fêtes religieuses, etc., n'avait lieu que les jours de fête. Et pas tous les jours. Évidemment, on n'allait pas au théâtre comme nous allons au théâtre parce qu'on a envie un soir d'aller au théâtre. Et tandis qu'au terme, c'est quotidien. Et ces termes vont être de plus en plus somptueux, de plus en plus grands. Et c'est un cadeau que l'empereur fait donc aux citoyens, et chacun va pouvoir un peu y rêver. C'est la situation des plus modestes, même les plus riches y vont aussi, parce que c'est un cadre qui est somptueux, et là on va pouvoir avoir une vision, disons, de la puissance de Rome, et même peut-être le sentiment de partager quelque chose de cette puissance. L'illusion de ces palais que pouvaient représenter les grands termes. Il y en a quand même eu 12 de construits à Rome et beaucoup dans l'Empire, parce que tout à l'heure, on parlait effectivement des courses de chars, etc. Oui, parce que Rome est partout dans l'Empire. Et une ville importante ou moyenne de l'Empire romain, d'un bout à l'autre de la Méditerranée et encore plus loin, s'honore d'avoir ce qui fait la grandeur de Rome, c'est-à-dire un forum, c'est-à-dire un grand temple, d'avoir des thermes, d'avoir un théâtre, d'avoir, si on est assez riche, un amphithéâtre, etc. Par conséquent, c'est un modèle universel, finalement, de la civilisation romaine qui s'est répandu à travers cette architecture. Et là, nous avons donc un dessin simplement qui nous donne, qui nous fait rêver un peu de ce que pouvait être l'excellence de la décoration. C'est pour ça que je dis que les termes sont un loisir collectif, bien sûr, puisque tout le monde s'y retrouve, profane, puisqu'il ne s'agit pas d'une cérémonie ni d'une fête religieuse, et quotidien, puisqu'on y vient effectivement tous les jours pour se baigner, mais aussi surtout pour se distraire, car je dirais que les thermes sont un complexe de loisirs. Aujourd'hui, on va au parc Astérix, c'est une chose. À l'époque, c'est pas tout à fait ça, mais c'était quand même un complexe de loisirs. Et ces thermes sont ouverts par un coup de gong au début de l'après-midi, donc après le coup de trompette du Capitole, et vont rester jusqu'au coucher du soleil. Il y a même eu les thermes de Caracalla. Caracalla avait en 217 proposé des grands thermes que vous connaissez peut-être, et j'espère que à Rome vous avez eu la chance comme moi d'assister à des représentations d'opéra au terme de Caracalla. C'est vraiment un enchantement, l'opéra de Rome qui se délocalise, si j'ose dire, l'été. Et ces thermes de Caracalla avaient pour ambition au départ, selon la volonté de l'empereur, de fonctionner 24 heures sur 24. Donc c'était vraiment un service extraordinaire, ça nécessitait des livraisons de bois pour alimenter les hippocaustes, que vous voyez, énormes, et puis ça dégageait une fumée qui obscurcissait complètement le ciel, une odeur plus en plus nauséabonde, d'autant plus qu'on voyait par quand les nettoyer, il fallait bien qu'ils fussent fermés de temps en temps pour pouvoir être nettoyés. Bref, ça n'a pas duré longtemps. Mais enfin, déjà, tout l'après-midi, on peut être accueilli aux thermes. Et les premiers thermes qui ont eu lieu, ce sont les thermes d'Agrippa qui sont petits. C'est les premiers thermes à être construits. D'abord, de façon privée, pour Agrippa, vous savez, l'un des bras droits d'Octave, qui devient Auguste, en étant son ministre de la guerre, si j'ose dire, et donc il s'était fait construire cet établissement de bains plus luxueux, et qu'il a donné au peuple, à la fin à un moment donné de sa vie, vers la fin, il a donné cet établissement donc pour le peuple. Ça a été les premiers thermes que l'on connaisse. Évidemment, ça n'a pas encore l'aspect somptueux de ce que l'on verra, mais enfin, c'est pas si mal. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que là aussi, il faut tenir compte d'un empire qui a duré 12 siècles. Il est évident que la vie des Romains, au tout début, même de la République, sans parler de la royauté, n'a rien à voir avec la vie des Romains au IVe siècle, dont nous avons eu les images éblouissantes tout à l'heure. Par conséquent, il ne faut pas confondre les thermes et les bains. Les bains n'étaient pas très nombreux sous la République, les chiffres quelque part, c'était 170, vous voyez. Il y en aura 856 au IVe siècle. Ça veut dire que les bains ont continué d'exister. Ce sont des établissements austères, ces établissements qui sont petits, qui sont payants, pas chers, je vous rassure, où les Romains avaient l'habitude d'aller se laver très fréquemment, et notamment sous la République, au non-dîne, évidemment, quand les paysans venaient de la campagne et venaient à Rome, ils en profitaient pour se décrasser. Enfin, bon, l'hygiène n'était pas la même qu'en Grèce, elle était beaucoup plus développée en Grèce, mais il y avait aussi un décalage chronologique, hein, entre les deux, et c'est allé progressivement en s'améliorant. Les thermes, eux, vont offrir l'avantage d'offrir un cadre à ce nettoyage. Alors, est-ce que ça marche dans un sens ou dans un autre? Voilà, c'est bon. Donc là, vous avez un simple dessin qui vous montre juste un petit peu de ce que va être un angle de la piscine des thermes de Caracalla. qui était un des plus grands thermes qui a été construit à Rome, pas le plus grand, hein, sur 11 hectares, ce qui n'est déjà pas si mal, les plus grands étant ceux de Dioclétien, bien entendu, avec 14 hectares. 14 hectares, une piscine de 2500 m2, dans laquelle on pouvait, enfin, qui pourrait contenir jusqu'à 1500 baigneurs à la fois. Donc, vous voyez que ça pouvait accueillir du monde et on avait de quoi se divertir. Donc, voilà ce que sont les termes par rapport au bain, en n'oubliant pas que de toute façon, toutes les fonctions du bain sont quand même toujours présentes au terme. Donc, vous avez là un dessin, enfin, une peinture qui vous représente ce que pouvaient être effectivement ces termes. Et qui évoque un peu aussi les termes de, anglais, vous savez, de bath, et qui sont un peu sont bien conservés puisqu'ils servent encore d'une certaine façon. Mais enfin, voilà, donc c'est cette communauté de gens qui se retrouvent, bon, qui ne se fréquentent pas forcément, mais enfin, quand même. Des petits termes très simples, qui me permettent de vous rappeler quelles sont les fonctions hygiéniques du bain. Voilà. Donc on arrive évidemment ici dans la moditerium, enfin j'ai employé les mots modernes, hein, dans le vestiaire, où l'on se déshabille, où il y a des casiers, nous verrons des photos tout à l'heure, où il y a des casiers pour laisser ses affaires, et comme il y a pas mal de voleurs et de gens qui peuvent s'emparer de ce que vous avez, on vient avec son esclave, hein, ou ses esclaves, si on est, bon, vous pensez comme moi, à Trimalcion, n'est-ce pas, sa tiricote de pétrole. Bien, donc on vient avec son esclave qui va garder les affaires, on apporte, alors suivant le matériel du bain, si on a le matériel du bain, c'est-à-dire le strigil, hein, je voulais vous apporter une belle photo de strigil que j'ai prise il y a quelques jours à Naples, au musée d'archéologie, mais j'ai oublié de la mettre dans le montage. Excusez-moi, mais vous savez ce que c'est qu'un strigil. Mmh. Voilà. On apporte évidemment ces huiles pour parfumer, enfin, si on a évidemment les moyens. Donc nous sommes au vestiaire, et puis de là, on va aller éventuellement quand il y a une salle chaude, enfin bah, une sorte de sauna, enfin la température peut quand même monter jusqu'à près de 60 degrés, donc vous voyez que ça peut être très chaud. Mais ici, il n'y en a pas véritablement. Et puis, on a donc l'ensemble chaud, si j'ose dire, je viens de dire, et puis l'ensemble froid, là, il n'y a pas de grande piscine, il y a simplement un bassin, et naturellement des latrines aussi.
Et les pauvres alors dans ces thermes? Mais justement, les thermes sont un lieu de brassage social, un lieu pour tous, un lieu où arrivent donc ces pauvres qui n'ont pas la vie facile et qui vont eux aussi bénéficier de la détente, des rencontres dans les thermes. On est toujours avec Jean-Noël Robert dans Antiquissimo.
Et c'est pas si mal, tout en haut d'une soula, n'est-ce pas, avec un brasero, et là, on s'arrête au Thermopolium, acheter sa saucisse et ses lentilles, et puis on les fait réchauffer sur le brasero. Par conséquent, la vie n'est pas facile pour l'ensemble des Romains. Alors, il y a les riches, il y a les pauvres. Vous allez me dire, où est la différence? Bah, elle est dans la fortune. Qui est riche? Ceux qui ont une debousse. Ceux qui ont une clientèle, qui ne sont pas obligés d'aller chercher tous les jours la petite piécette pour aller acheter sa tranche de jambon, n'est-ce pas, au supermarché. Donc ces gens-là sont quand même relativement dans la difficulté. Et ils cherchent à dîner. Donc bien sûr, ils vont profiter des termes. Ils vont se dire, je vais trouver un riche qui va m'inviter à dîner, même s'il me traite mal. Même si, comme il est Yogabal, il leur sert des plats tout en citrouille, n'est-ce pas, mais sculptés, peints, etc., et ils n'ont rien d'autre à manger, ou alors en peinture, simplement, ils les regardent. Bon. Ça, c'est des petites facéties d'empereur. Bon, maintenant, vous avez évidemment, pour revenir à Martial, le célèbre petit texte, petit épigramme de Médogénès, qui est un parasite. qui est un parasite et qui va au terme dans cet espoir. Je vous en lis deux, trois phrases. Échapper à Ménolénès est chose impossible. Il ramassera pour vous la portée, la balle flasque qu'il cueille dans la poussière, même s'il s'est déjà baigné. Si vous prenez votre serviette, il la dira plus blanche que la neige, fût-elle plus sale qu'une bavette d'enfant. Il portera lui-même votre santé avec un fond de lit puisé dans une jarre enfumée. Et il essuiera sans se lasser la sueur de votre front. Il vous louera en tout, il vous admirera pour tout, jusqu'à ce que, accablé de tant de prévenances fatigantes, vous lui disiez « Viens dîner !» Un lieu que l'on fréquentait justement comme Ménogénès pour venir flatter, n'est-ce pas, et espérer une invitation à dîner. On vous passait la... Je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, vous connaissez la petite éponge au bout de son... Voilà. Mais c'était bien organisé. Il y avait quand même un flux d'eau continuel par en dessous qui passait. Enfin bon, les choses sont quand même confortables. Là, les latines sont gratuites. Elles sont payantes en ville. Ah, pas cher non plus, mais enfin. Par conséquent, la vie est quand même extrêmement difficile. Et il faut bien essayer de... d'oublier un peu, donc importance sociale, hein. Oublier sa difficulté de vivre, pendant que les riches, évidemment, en profitent et se gobergent, participer un tant soit peu de cette puissance de Rome qui pour eux n'est qu'un nom, hein, puisqu'évidemment, ils ne la connaissent pas vraiment. Alors, je ne me trompe pas, voilà. Donc vous voyez ce palais, c'est un véritable palais pour les pauvres. Et là, on comprend bien, dans cette image célèbre, on comprend bien toute l'importance que les empereurs pouvaient mettre dans la décoration de ce temple. Ce temple humain, ce temple du corps, devrais-je dire, car les thermes sont un véritable temple du corps. Et évidemment, tout à l'heure, nous parlions de la nudité, et j'aimerais en dire un petit mot aussi, parce que nous sommes sous l'Empire, je vous le rappelle, les choses ont évolué, puis la République, avec Caton, on aurait pu dire autre chose, enfin, restons sous l'Empire et dans les termes, la nudité romaine n'est pas la nudité grecque. Les Romains condamnaient la nudité des Grecs, car à Athènes et ailleurs, on voyait les jeunes gens des familles grecques qui se préparaient nus, à faire de la gymnastique et puis aussi de la danse, etc., pour devenir des citoyens grecs. Ça, le Romain le refuse absolument. Le citoyen romain est quelqu'un qui a un corps propre, maîtrisé, habillé. Il est évident qu'on ne se promènerait pas en caleçon sur le forum. Au terme, c'est différent. La journée officielle s'est terminée à midi. L'après-midi, c'est le loisir, la détente. Moi, j'ai envie de traduire quelquefois Outhume par qualité de la vie. Chacun ayant une qualité qui peut être différente. Et donc, au terme, on peut se dévêtir. Il n'y a plus cette obligation de la maîtrise du corps pour le citoyen romain. Car les Romains n'étaient pas pudibonds. Ils pouvaient être pudiques, mais ils n'étaient pas pudibonds, ils étaient volontiers voyeurs. Et ça, c'est un petit peu différent. Et par conséquent, au terme, nous avons cette nudité qui est naturelle, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un peu de sensualité, évidemment. En relisant les auteurs, on s'aperçoit que, somme toute, même si on est en train d'écouter un citoyen dans le plus simple appareil qui est là et qui est en train de déclamer des vers qu'il a composés, très fier de son œuvre, et puis soudain passe une jeune beauté, mais pas forcément féminine, puisque à partir d'Adrien, de toute façon, il est interdit de mêler les hommes et les femmes. Mais une jeune beauté qui, si pour peu qu'il soit doté d'un organe à faire pâlir brillable soi-même, va être tout de suite poursuivi par plusieurs des auditeurs de la poésie. Du coup, le pauvre poète se retrouve tout seul. Et évidemment, la palpe ira à celui qui finira par prendre le garçon par le bras et l'emmener vers d'autres cieux. Bon, Donc, la nudité romaine n'est pas du tout dans le même esprit, évidemment, que la nudité grecque. Et dans ces lieux, je vous le disais, tout le monde se mêle. L'empereur lui-même ne dédaigne pas de venir se baigner dans les thermes qu'il a offert au peuple. C'est ainsi qu'Adrien, un jour, arrive au terme et il voit un vieux qui est là en train de se frotter contre le mur. Alors il lui demande ce qui lui arrive. Et l'autre lui explique qu'il est un vieux légionnaire, qu'il a servi dans la Légion, mais que bon, il est trop pauvre pour pouvoir se payer un strigile pour racler sa sœur. Il n'a pas d'esclave, évidemment, qui peut porter sa serviette. Et l'empereur, ému, donne tout de suite des ordres pour que lui soit donné tout le matériel nécessaire pour le bain. Bon, l'empereur revient le lendemain ou deux jours après, au même terme, et aussitôt il voit 10 vieillards qui se mettent à se frotter de l'eau contre le mur. Il les regarde et puis il leur dit, bon, écoutez, puisque vous êtes membres, ben, frottez-vous le dos les uns les autres.
Le bain de Cléopâtre! Le bain de Cléopâtre!
Le savon de Cléopâtre.
Le savon de Cléopâtre.
Le savon de Cléopâtre.
Le lion de Cléopâtre.
Le lion de Cléopâtre.
Le lion de Cléopâtre.
C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux, du courage comme quatre et de l'esprit.
Alors ça, zéro, hein?
À regret maintenant Jean-Noël Robert, mais pas les termes. J'ai en effet à cœur de vous lire un texte connu de Sénèque, que j'affectionne particulièrement, à la fois Sénèque et à la fois ce texte, que dans un instant je vais vous proposer. Ce texte fait partie des moments forts, de ces moments qui, dans une vie, vous ouvrent la route. Car la marmite de la romanité, j'y suis tombée très jeune, avec mon premier professeur de latin, Georges Lys, un vieux monsieur d'un autre temps, qui m'a énormément appris et qui m'a donné envie d'apprendre. Il était tellement passionné, tellement dedans. Les émissions très populaires comme Alain Decaux raconte Pompéi, qui m'a tellement émue, et puis des textes. J'ai toujours adoré ce texte très connu des lettres à Lucilius, 56, paragraphe 1-2. Et ce texte m'a permis, étudiante sans moyens pour voyager, de me transporter en pensée à Bailly, cette ville paradisiaque que j'ai connue après, non loin de Naples, dans une chambre que le philosophe avait louée au-dessus de bains publics, soi-disant pour réfléchir au calme. Mais de calme, il n'y en avait pas. Et grâce au bruit, au contraire, qui vont le gêner, qui vont l'étourdir, eh bien, j'ai pu vivre, par procuration, ces scènes pittoresques où le son, le bruit, font image, font résonance. Le poids des mots, porteurs des bruits, vaut autant que le choc des images. Grâce à ce texte, les termes romains me sont devenus si familiers que j'ai pu laisser croire à mon examinateur à la Sorbonne, M. Jean-Pierre Néraudeau, que j'avais vu ce dont je parlais. J'ai dû le détromper. J'avais juste lu Sénèque. Je le lui ai dit. Il s'en est rappelé bien plus tard. Il s'est rappelé de moi aussi du coup, à cause ou grâce à ce souvenir de Sénèque. Alors Sénèque, le texte commence ainsi. « Ecce undique me warius clamor circum sonat ». Je ne vais pas vous proposer tout le texte en latin, mais sa traduction qui est vraiment savoureuse. « Voici que de toutes parts, des bruits de toutes sortes m'entourent. Imagine toutes les sortes de voix qui peuvent te faire prendre tes oreilles en haine. Lorsque les sportifs s'exercent et travaillent aux haltères pendant leur effort, ou leur semblant d'effort, j'entends des gémissements. Et chaque fois qu'ils reprennent haleine, c'est un sifflement et une respiration aiguë. Lorsque je tombe sur un paresseux et quelqu'un qui se contente d'une friction à bon marché, j'entends le claquement de la main sur les épaules qui, selon qu'elle frappe à plat ou en creux, rend un son différent. Et s'il vient par là-dessus un joueur de balle qui commence à compter les coups, tout est consommé. Ajoute à cela le querelleur et le voleur pris sur le fait et l'homme qui aime entendre sa voix quand il prend un bain. Ajoute encore les gens qui sautent dans la piscine au milieu d'un fracas d'eau éclaboussée. Mais en plus de ces gens-là, dont la voix est au moins normale, imagine la voix aiguë et aigre des épilateurs, des arracheurs de poils, qui veulent se faire ainsi mieux entendre et poussent tout d'un coup des cris, sans se taire jamais, sinon lorsqu'ils épilent une aisselle et alors font crier les autres à leur place. Et puis, les cris variés du pâtissier, et le marchand de saucisses, et le vendeur de petits pâtés, et tous les garçons de taverne qui annoncent leurs marchandises avec une mélopée caractéristique. Vous aussi, vous y croyez? Allez, au revoir.